Le berger et l'assassin. Un livre écrit par Henri Meunier et illustré par Régis Lejon.
Tu n'aimes pas ma maison ? C'est vrai, les murs n'en sont pas droits. Les poutres sont grossières. Le plancher laisse monter l'odeur âcre des bêtes. Mais le soir, les cimes des montagnes viennent s'étendre dans cette petite fenêtre. Le soleil épuisé se couche précisément chez moi. Tu vois, ami, tu trouves cette pièce bien petite, mais depuis toujours le soleil, la montagne et moi y vivons ensemble. Et nous n'y sommes pas à l'étroit.
Je ne suis pas ton ami,
grogna l'assassin.
Égare à ce que tu fais ou tu es un homme mort.
Il aurait aimé que sa phrase soit sèche, sèche et définitive. Comme le tintement produit par la balle que le berger avait jetée dans l'écuelle après l'avoir extraite de sa cuisse. Clink, clink, puis le silence. Mais le berger s'en fichait pas mal de sa phrase. Il restait concentré sur ses travaux d'aiguille.
« Tu ne sais pas qui je suis !»
ajouta l'assassin. Il se savait à la merci du berger. Il aurait aimé lui faire croire le contraire, afin de pouvoir s'abandonner, plus serein, aux fièvres qui l'abrutissaient.
« Tu es un homme blessé, »
répondit le berger.
« Et cesse de t'agiter, imbécile, je te recous. »
Plink. Le jour était levé. Brûlant de fièvre, l'assassin se dressa avec peine. Le bandage de sa cuisse rougit. Il était trop tôt pour se mettre debout. Une inquiétude plus mordante que la douleur l'assaillit. Le berger était absent de la pièce.
« Il est allé me dénoncer aux chemises grises, »
pensa-t-il. Il voulut s'enfuir, mais le sol se déroba sous ses pieds. Ses yeux se révulsèrent, il poussa un souffle rauque et perdit connaissance. Quand les aboiements du chien le réveillèrent pour la seconde fois, il était de nouveau allongé dans le lit. Ses bandages avaient été changés. Un broc d'eau, un bout de fromage et de pain noir l'attendaient sur un tabouret. Il but un peu. Une béquille grossière reposait contre le mur à portée de main. Il s'en saisit. À pas branlants, il gagna la porte ouverte sur la montagne. Le temps s'habituait à la lumière vive des estives. Il aperçut le berger sur le tas de bûches contre la maison, en plein soleil.
« J'ai dormi longtemps ?»
demanda-t-il au berger.
« Presque 2 jours. »«
Dès que j'irai un peu mieux, tu me feras passer la montagne. »«
Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. »«
Ce n'était pas une question. »«
Pour moi, c'en est une. »
Le berger but un peu du lait de ses brebis, à même le pot à traire. Puis, il le tendit à l'assassin.
« Qui que tu sois, la montagne est plus dangereuse que toi. »«
Tu as peur de passer la montagne ?»«
Oui, »
répondit le berger.
« C'est parce que tu ne connais pas les abîmes d'où je viens. Tu ne sais rien de ce qui se passe en bas. »
tenta l'assassin.
« Je n'ignore pas les fascistes d'en bas. Pour l'heure, ce sont les fascistes qui m'ignorent. Toi, en revanche, tu ne sais visiblement rien de la montagne. »
retoqua le berger.
« Les cimes ne m'intéressent pas. C'est l'autre versant des cimes que je vise. De ce côté-là, c'est fini pour moi. »«
Cimes, abîmes, tu joues de grands mots. »
remarqua le berger.
« Les mots sont des armes. » »«
Je n'aime pas les armes. Les mots sont des mots. Et les mots sont toujours ambigus. »
trancha le berger en se levant.
« Nous partirons au tout début de l'automne, avant les grands froids. Nous ne pourrons pas attendre plus. »
dit le berger en caressant machinalement la tête de son chien.
« Pourquoi m'aides-tu ? »
questionna l'assassin.
« Tu es blessé. Je t'ai soigné. À quoi bon te soigner si c'est pour te laisser mourir après ? Puisque tu ne peux plus descendre, il te faut rester ici ou monter. Monter seul, tu ne le pourras pas. » Et moi, je ne veux pas d'un homme comme toi ici,
expliqua le berger. Il poursuivit.
Tu vois ce chemin ? Il descend vers tes abîmes. Celui-là monte vers les cimes. Moi, Je suis l'homme du milieu. Je vis à l'écart de toutes les choses, les belles comme les laides. Parce que je ne sais pas vivre autrement. Je ne sais rien de toi. Je n'aime pas l'ordre totalitaire qui sévit au pied de la montagne. Je n'ai aucune idée de ce qui se trouve au-delà des cimes. Mais en venant ici, tu as mis fin à mon asile. Tu as forcé mon refuge. Tu m'obliges à monter avec toi ou à descendre pour te livrer aux miliciens. À marche égale, je suppose qu'il est plus estimable de choisir l'inconnu à l'ignominie. Tu dois te remettre sur pied d'abord. D'ici là, les chemises grises risquent de suivre tes traces et de monter jusqu'ici. Il vaut mieux que te cacher. Suis-moi, maintenant,
ordonna le berger. Ils empruntèrent une pente escarpée qui mit l'assassin au supplice. Il ne s'en plaignit pas. Après une quarantaine de minutes, ils atteignirent une discrète cavité masquée entre les rochers. Elle avait été sommairement aménagée.
Un lynx occupait ce gîte il y a quelques années. Tâche d'être aussi discret qu'il était. Tu as des couvertures et de quoi te nourrir. Tu trouveras une source à 100 mètres vers le sud. Je passerai te ravitailler tous les 2 ou 3 jours,
dit le berger.
La tanière d'un fauve,
grommela l'assassin.
Délicate attention.
Les fauves ne sont pas tous stupides. L'entrée de cette grotte est orientée à l'est. Le soleil du matin te réchauffera. La vue te permet de surveiller tout ce qui vient de la vallée. Mais ce petit surplomb t'en cache. Je vais faire paître le troupeau entre la bergerie et toi. L'odeur de mes brebis trompera le flair des chiens miliciens. J'ai gardé ta chemise et ton pantalon ensanglanté. J'irai les jeter dans un précipice à 2 kilomètres en les frottant ici ou là à flanc des versants. Si les miliciens m'interrogent, je prétendrai que je t'ai vu passer. Ils me croiront. Depuis 2000 ans, les gens font confiance aux bergers. Un sentiment chrétien, je suppose. Leurs chiens suivront la piste laissée par tes habits. Et avec un peu de chance, ils te croiront mort. En attendant, tu en es en sécurité ici. Si tu espères passer la montagne, marche. Beaucoup chaque jour. Tu es trop faible aujourd'hui, même sans ta blessure.
Le berger laissa tomber au sol un sac de peau. Il chuta tel une pierre. Son chien le flaira par réflexe.
C'est pour toi,
bougonna-t-il en s'éloignant rapidement, son labri sur les talons. L'assassin se pencha sur le sac et l'ouvrit. Enveloppé d'un torchon graisseux, il y trouva un pistolet rubis et une vingtaine de balles 7,65 mm. L'assassin fut réveillé par les jappements lointains des chiens. Il vit la colonne monter en ligne droite vers la bergerie. Il rassembla fiévreusement ses pauvres effets, sa couverture et quelques vivres au cas où. Mais il suivit les conseils du berger et plutôt que de chercher à fuir les chemises grises, il se calfeutra au fond de la tanière, l'arme chargée serrée contre lui. La ruse du berger fit son office. Les aboiements ne s'approchèrent jamais de sa cache. L'odeur des brebis faisait bien barrière à la sienne, laissant sa piste s'évaporer dans les estives, mettant au défi les chiens, enrageant la milice. Au mi-temps de la nuit, il risqua un œil au dehors. De sa position, il ne pouvait pas apercevoir la bergerie. Mais les clameurs étouffées qui lui parvenaient lui apprirent que la milice s'y trouvait encore. Les glapissements du labri aussi. Il prit peur. L'écho sec des 2 premiers tirs de pistolet ricocha sur les flancs de la montagne. Les glapissements se turent. Alors seulement, il pensa au berger. L'assassin ne quitta pas sa cachette de tout le jour. Depuis le 5e coup de feu, aucun bruit ne parvenait jusqu'à lui. ni aboiement de chien, ni cliquetis de voix. Seuls retentissaient les bêlements douloureux des brebis. Il se mit en route à la nuit tombée et resta quelques heures en surplomb de la bergerie pour observer les lieux. Aucune lumière, aucun signe de vie. Par petits déplacements furtifs, il s'approcha. À la bord de la masure, il buta sur une brebis morte. Devant la porte ouverte qui balançait mollement au gré du vent, il trouva le cadavre du labri. Le berger gisait inconscient dans sa couche, le visage tuméfié, les pieds atrocement brûlés. L'assassin courut chercher de l'eau, en versa quelques gouttes entre ses lèvres sèches. Il humidifia un linge et commença à laver son visage. Les paupières gonflées du berger tressaillirent.
Ils ne t'ont pas cru, tout bon berger que tu sois. Le sentiment chrétien leur manquait donc,
murmura l'assassin.
Ces fascistes-ci n'avaient aucune sorte de sentiment,
réussit à répondre le berger d'un souffle narquois. Avant de sombrer de nouveau, il ordonna à l'assassin d'aller traire les bêtes qui souffraient de leur trop-plein de lait et d'enterrer son chien. L'assassin acquiesça, mais ne sortit pas de la bergerie. Il rassembla d'abord les linges propres et le pot d'onguen fait d'herbe de montagne et de graisse que le berger utilisait pour soigner ses brebis blessées. Avec délicatesse, il nettoya les deux pieds du berger, les enduisit d'une épaisse couche de cet onguen et enveloppa le cataplasme avec soin dans les linges propres. Il disposa une peau de mouton roulée sous les mollets du blessé afin que ses pieds ne touchent plus sa couche. Il déposa sur le front de l'homme enfiévré un linge mouillé d'eau fraîche. Puis il prit la direction des bêtes. Lorsque le berger revint à lui, il vit que sa maison avait été remise en ordre. Un broc de lait, un bout de fromage et de pain noir l'attendaient sur un tabouret. Le pistolet s'y trouvait aussi, chargé.
Je partirai dans quelques jours, le temps que tu sois assez rétabli pour t'occuper de ton troupeau,
dit l'assassin posté à la porte. Il fixait nerveusement le chemin descendant vers la vallée.
Tu ne passeras jamais les hauts cols tout seul,
objecta le berger.
Je t'accompagnerai. Laisse-moi une semaine ou deux.
Dans l'état où sont tes pieds, ce serait de la folie. J'irai seul.
Je passe aussi de l'autre côté,
affirma le berger d'une voix encore faible, mais sans appel. L'assassin sortit sans se retourner. C'était l'heure de la traite. Avec des peaux de mouton, le berger confectionna deux espèces de chausses souples et rembourrées. Chaque pas lui arrachait un rictus de douleur, mais il parvint jusqu'à l'assassin qui prenait soin du troupeau. Une semaine avait filé, sans que les chemises grises ne reparaissent. Peut-être avait-il cru, finalement, à la mort du fuyard.
« Tu t'en sors bien avec les bêtes, »
apprécia-t-il.
« J'avais des vaches avant. C'était moins stupide que les brebis, les vaches, »
répondit l'assassin.
« Nous passerons par le col des Issards, »
expliqua le berger en pointant la voie de son doigt.
« Puis nous filerons vers le pic des Saillettes en passant par là.
»« La folle ascension des boiteux, avec tes pieds et ma cuisse ?»«
Si nous n'atteignons pas ce sommet sur nos deux pieds, nous le vaincrons à genoux, mon ami. »
ajouta le berger.
« Je ne suis pas ton ami, »
trancha l'assassin.
« Il nous faut enfermer les 18 brebis allaitantes qui n'agnèlent pas, » ordonna le berger. « Nous laisserons les autres libres. Elles se débrouilleront bien assez sans avoir à souffrir de n'être pas traites. »
« Isoler ces brebis sans ton chien ne sera pas une mince affaire, »
raisonna l'assassin. L'opération leur prit toute la journée. En silence, ils coordonnaient leurs gestes, saisissaient leurs intentions et partageaient les efforts. Cela rassura un peu le berger, taraudé par les dangers qui les attendaient bientôt. Le soir, ils se chargèrent de traire les brebis. Ils burent une partie du lait, placèrent le restant dans les gerles de fromagerie, égrenèrent le cahier des derniers jours, le pressèrent dans les moules, retournèrent les tomes des semaines passées. Ils firent le métier minutieusement.
Nous partirons à l'aube. Préparons nos paquetages,
annonça le berger.
Oui,
répondit l'assassin. Cette tâche accomplie, ils se couchèrent.
Fais-le, s'il te plaît,
s'excusa le berger. L'assassin n'eut pas besoin de lui demander de préciser sa pensée.
Avance, je te rejoins,
approuva-t-il. Il attendit que le berger s'éloigne. Quand le berger eut disparu, l'assassin attendit encore. Puis il pénétra dans la bergerie. Il y trouva le pistolet, déposé en évidence et convenablement chargé. Depuis le promontoire où il était assis, le berger regardait la montagne. Son regard portait au loin. Jusqu'au col des Isards, il connaissait parfaitement. Il pourrait y bivouaquer. Après les Isards, il se souvenait assez bien de ses courses de jeunesse, suffisamment, espérait-il, pour atteindre sans souci majeur le refuge de haute altitude. Ensuite, la face nord-est était réputée plus facile. Elle comptait plusieurs voies empruntables et moins de crevasses. Mais il n'était jamais monté si haut. Il connaissait les récits des guides qui s'arrêtaient à la bergerie pour boire un peu de lait et profiter du feu. Sans plus, il ne pourrait compter que sur ses ouï-dire et sur la chance. Malgré ses incertitudes, le berger semblait paisible. Il ne scia pas quand claquèrent les 18 coups de feu, réguliers comme autant de points suspendus à ses pensées. Quelques silences plus tard, l'assassin le rejoignit et s'assit à ses côtés pour reprendre son souffle. Il se retourna face à la vallée. La vue l'intéressait peu au fond, mais il ne voulait pas croiser le regard du berger.
« Elle est belle, ta vallée !»
lâcha-t-il, pour offrir au berger l'occasion d'exprimer sans peine ce qu'il aurait certainement envie de dire à ce moment-là.
« Merci !»
répondit le berger. Il ne leur restait qu'une courte selle à passer avant d'atteindre le refuge. Un vent glacial balayait les pentes abruptes du dôme de Côme. Le berger allait en tête, l'assassin suivait machinalement. Il se voyait à peine. Ils allaient hors d'haleine, chaque mètre gagné comme autant d'insurmontables efforts. Ils tentaient de se cacher l'un à l'autre, leur extrême faiblesse. Régulièrement, ils battaient des mains pour se débarrasser des glaçons qui se formaient à la jointure de leurs habits et sur leurs moufles grossières. Tous deux étaient heureusement trop là pour penser. Sans quoi l'idée de l'abandon les aurait assaillis sans répit. Ils atteignirent enfin le refuge. C'était une pauvre cabane de planches engoncée entre deux rochers, mais il y avait un foyer et un peu de bois. De la neige à fondre autant qu'il en fallait. Et les effets laissés au fil du temps par les alpinistes pour aménager leur survie. Ils décidèrent d'y passer 48 heures afin de s'acclimater un peu à la haute altitude et raviver leurs pauvres forces.
Demain, nous ferons cordée.
Il faut se faire confiance pour ça, non ?
Demanda l'assassin.
Oui,
acquiesça le berger.
Tu veux savoir ?
S'enquit l'assassin après un long silence.
Pour l'homme que j'ai tué, je veux dire.
Je ne préfère pas,
répondit le berger.
Des justifications, on en trouve toujours. Des bonnes et des mauvaises. Aucune n'est valable. Le mal qui est fait ne peut pas se défaire.
Le vent se fracassait contre la fragile cahute. Un bruit assourdissant enveloppait les deux hommes. Ils s'endormirent.
« Quelles sont nos chances de passer ?»
questionna l'assassin.
« Au moins une, je suppose, »
répondit le berger.
« Une ? C'est formidable !»
conclut l'assassin. Il se passa les mains sur le visage et prouva la solidité des nœuds autour de sa taille. Il enfila ses gants de peau, empoigna son piolet et se positionna face à la paroi brutale qu'il leur faudrait franchir.
« En haute montagne, les apparences sont trompeuses, »
avertit le berger.
« Tu vas prendre chaque arête pour le sommet. Arrête après arête. Ne te décourage pas. Le sommet est là. Dans la montagne, il y a toujours une fin. »
« En plaine aussi, les apparences sont trompeuses. Il y a une fin à tout,
jugea l'assassin.
Je ne le crois pas,
rétorqua le berger en vérifiant lui aussi son bon encordement.
Dans la vie, il n'y a pas de sommet, pas de point. Nous nous en inventons pour jouir du réconfort d'un possible destin. La vérité, c'est que les jours succèdent aux jours, rien de plus. Et chacun avance, comme il peut, de sa naissance à son trépas. À notre mort, un autre prend la suite. Nous allons tous liés en cordée, de petit pas à petit pas, de vertige en vertige. L'humanité se tient dans l'ascension, dans la chute.
Ajouta-t-il pour préciser sa pensée.
Peut-être bien,
admit l'assassin.
Peut-être bien que chacun fait ses petits pas et rien de plus. Et à coup sûr, certains de nos pas vont de travers quand d'autres sont de velours. Crétin à part, qui peut différencier sans l'ombre d'un doute les pas qui nous portent vers les sommets de ceux qui nous en éloignent? Mais quel que soit le chemin parcouru, quelle que soit sa place dans la cordée, et quel que soit le nombre de pas que l'on a posés de travers, rien ne peut empêcher un homme de se mettre un jour au pas de danse, non ?
Souffla-t-il avant d'arrimer d'un coup sec son piolet dans la glace. Puis il s'éleva d'un pas.